Bienvenue dans l'hebdo des lycéens, cette émission qui, chaque semaine, ou à peu près, vous permet de retrouver la synthèse de l'actualité vue par les lycéens de la cité scolaire Paul Scarron, en l'occurrence, les élèves de terminale. Et ils font un choix sur l'actu, mais cette semaine, on a décidé de faire un petit peu différemment des autres fois, puisque plutôt que d'être sur l'actu générale, on avait décidé de centrer sur des sujets qui traiteraient un peu de jeunesse, d'éducation, etc. Alors autour de la table, dans le studio, nous avons Justine, Audrey, Laurine, Antoine, Lise, Stéphanie et Pierre, qui ont choisi d'aborder différents sujets. Et dans un premier temps, je vous propose de démarrer avec un sujet, on va dire, d'ordre d'intérêt général. Justine va nous parler d'adoption.
Oui, une enquête portée à l'échelle mondiale démontre que les enfants adoptés proviennent de plus en plus du pays d'origine des parents qui adoptent et viennent donc de moins en moins des pays étrangers. En effet, les adoptions internationales ont diminué d'un tiers depuis l'année dernière. On observe cela partout dans le monde. Cela est dû à la politique mise en place par de nombreux pays, donc plus de 80, qui encourage les familles adoptives à rechercher des enfants dans leur propre pays. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi, les catastrophes et les conflits s'ajoutent à cela, car les projets d'adoption sont bloqués lors des difficultés, comme en Haïti, où on a pu entendre parler de nombreuses histoires d'adoption. En France, cela est surtout dû au fait qu'il n'y a pas de programme de coopération avec les pays étrangers concernant l'adoption. Néanmoins, la situation est en train de changer, puisqu'il y a un budget de plus en plus conséquent et les magistrats sont spécialement formés pour ces situations.
Alors sur le fait de choisir ce sujet, puisqu'on parlait de jeunesse, là on parle d'enfance à l'échelle planétaire, hein, puisqu'il est question d'adoption dans d'autres pays. Est-ce que tu as eu l'impression que pendant plusieurs années, il y a eu en fait plus que de l'échange affectif, un vrai trafic?
Oui, on a beaucoup vu ça dans l'actualité, des enfants qui sont vraiment vendus comme une marchandise plus que comme... On peut penser à la situation des familles qui sont désespérées, mais là, c'est plus de l'affection, c'est vraiment de l'achat, de la vente, de l'échange et tout.
Alors, pas uniquement, hein, c'est pas parce qu'on allait payer pour avoir un enfant à l'étranger que forcément on était dans une situation de trafic de ce type. Par contre, le danger, c'était peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des trafics dans les pays pour mettre à disposition des enfants en dehors des dispositifs de la loi. C'est pas forcément ceux qui adoptaient qui étaient coupables de ce type de trafic. Ça te paraît logique d'adopter des enfants dans leur plutôt dans son propre pays ou est-ce que finalement c'est pas un problème?
Moi je pense que c'est pas un problème, non. On peut adopter dans son pays ou à l'étranger. Peut-être voir la nécessité, enfin les enfants qu'on a peut-être le plus besoin d'avoir une famille stable, qui sont orphelins, c'est peut-être mieux d'adopter à l'étranger pour ça, mais ça concerne les parents, après ils font leur propre choix.
Après les questions de langue, de culture, est-ce que tu crois que ça pose problème?
Ça peut poser problème si l'enfant est assez âgé, mais si c'est des nourrissons, non, ça doit pas poser de problème.
Donc tu penses qu'il faut qu'il soit vraiment petit?
Je pense que c'est mieux parce qu'un enfant qui est assez âgé, je pense qu'il aura toujours plus de mal à s'adapter qu'un tout petit. Il a vraiment connu son milieu d'origine et changer de milieu radicalement, ça me paraît assez difficile émotionnellement.
Est-ce que tu connais, toi, dans ta proximité, sans bien sûr citer les noms des personnes, est-ce que tu connais dans ta proximité des personnes qui ont eu recours à l'adoption à l'étranger ou même en France
Non, pas du tout. Il n'y a pas d'enfants adoptés dans mon entourage.
Non. Dans ton entourage, non. C'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez marginal. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des familles ici sur le secteur de Ciel-Guillaume qui ont pratiqué l'adoption dans des pays asiatiques et ça se passe très très bien. Enfin, pas toujours facile à faire, mais ça se passe bien. Très bien, merci pour ce point d'information sur cette tendance donc de l'adoption qui irait vers une adoption plutôt dans les pays eux-mêmes que sur l'extérieur. C'est Audrey qui va maintenant aborder une question de relations entre jeunes. Oui, Audrey.
Oui, donc le mois dernier, Luc Chatel, ministre de l'Éducation, a dit que l'école reste un lieu de paix. Or, si l'on regarde les résultats des enquêtes menées à ce sujet, on constate que sur 3 200 000 élèves de 11 à 15 ans fréquentant le collège français, 10% d'entre eux souffrent de harcèlement. Cela équivaut à 322 000 enfants. Mais ce n'est pas tout. Le ministère de l'Éducation a mené son enquête dans 300 collèges et on constate que 193 000 collégiens sont gravement harcelés, 200 000 sont rackettés, 300 000 se font voler des objets personnels et 150 000 voient disparaître leurs fournitures scolaires. Dans ce lieu de paix, comme le qualifie Luc Châtel, les plus jeunes sont les plus touchés. En effet, 20% des enfants en classe de 6e ne se sentent pas en sécurité dans leur établissement. Alors, peut-on prétendre que l'école est aujourd'hui un lieu de paix ?
Alors, c'est une question, bien sûr, que tu peux poser. Est-ce que tu peux y répondre à cette question ?
Non, je ne peux pas y répondre, mais...
Est-ce que tu as l'impression, vu de Cyril Guillaume, vu de notre secteur du pays de Haute-Sarthe, que l'école est un lieu d'insécurité ?
Au lycée, non, mais au collège, je trouve que oui, quand même.
Par exemple, qu'est-ce que tu crois ou qu'est-ce que tu as vu ?
Beaucoup de bagarres, beaucoup d'insultes inutiles. Enfin, les jeunes ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, en fait. Enfin, des gros mots qu'ils...
Tu parles d'agression verbale plutôt.
Ouais, verbale.
Plus de vocabulaire, de problèmes de vocabulaire
que
de problèmes
que physique.
De bagarre, etc. Oui. Mais à ton avis, est-ce que c'est un problème d'école ou est-ce que c'est un problème d'éducation plus général ?
Bah, d'éducation, mais je veux dire, les amis qu'on a nous font faire des choses parfois que. Enfin, on change suivant les amis qu'on a. Donc je pense que ça y joue aussi. Puis quand on grandit, l'adolescence, c'est pas. On change.
Sans blague. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Non, mais je veux dire, notre comportement change, donc on réagit différemment, on veut prouver qu'on est grand, on veut se montrer, je pense aussi. Donc harceler les plus petits, c'est peut-être aussi montrer sa supériorité, je sais pas.
Ouais, donc celui qui harcèle, quelque part, tu penses qu'il veut se prouver quelque chose à lui-même ou prouver quelque
aussi,
chose aux autres ?
Ouais.
C'est une façon d'affirmer ça, d'affirmer une certaine force, oui. Est-ce que tu penses qu'il faudrait prendre des mesures disciplinaires contre les harcèlements, qu'ils soient des harcèlements par la parole, comme tu l'as dit, ou alors évidemment, si on est dans la violence, c'est autre chose, mais rien que par la parole.
Oui, je pense, mais ça n'empêcherait pas ceux qui veulent le faire de le faire, donc je ne sais pas si c'est vraiment utile, en fait.
Puisqu'on parle des jeunes, la question qui se pose aussi, c'est de savoir s'ils ne reproduisent pas finalement ce qu'ils voient, peut-être parfois ce qu'ils entendent dans leur famille, pardon, s'il y a des familles qui se sentent concernées, ou alors éventuellement qu'ils entendent à la télévision à travers les films ou à travers les violences des jeux vidéo. Enfin, est-ce qu'ils ont vraiment conscience du sens des mots, à ton avis ?
Non, je ne pense pas.
Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui se dégrade ou...
Oui, beaucoup, oui. Maintenant, on va dire des gros mots, enfin même pour rigoler, alors qu'on sait même pas ce qu'ils veulent dire.
Bon. C'est... Donc on perd le sens,
le, hein, sens du
le
mot,
poids.
Ouais, ouais.
Et les petits gamins, eux, ils peuvent pas mesurer en fait qu'ils ont dépassé des bornes, qu'ils ont passé, comme on dit, la ligne jaune. Ok. Donc une étude qui est quand même inquiétante parce qu'on voit que la violence rentre tout doucement, hein, dans des collèges, sans doute moins dans les collèges ruraux, mais aussi parfois. Laurine, toi tu veux nous parler d'évaluation.
Oui, depuis le mois de septembre, 9 collèges de Charente-Maritime testent un nouveau système remplaçant les notes, qui est le code couleur. Donc ça consiste à ce que des pastilles de 2 couleurs permettent de distinguer le niveau des élèves. Ainsi, 2 pastilles vertes, elles sont attribuées pour bonne maîtrise, une verte pour maîtrise incomplète, une rouge pour envoi d'acquisition et 2 rouges pour non acquis. Un système qui ravit les élèves en difficulté, mais ce n'est pas le cas pour les premiers de la classe, parce qu'ils aimaient voir leur bonne note sur le papier.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce système ?
Ben, moi, je pense que c'est un bon système, mais pour les enfants en difficulté, au moins, ils se sentent pas, entre guillemets, nuls ou différents, enfin plus faibles.
Stigmatisés, quoi, en quelque sorte, par la note, oui.
Et après, je le trouve aussi pas forcément mauvais, mais pour les élèves qui sont les premiers de la classe, c'est toujours bon d'avoir des notes après pour bien situer son niveau à peu près.
Est-ce que tu penses qu'il faut noter chez des jeunes, même chez des adultes, quand ils sont amenés à être notés par quelqu'un, est-ce qu'il faut évaluer les performances réalisées ou l'avance dans l'acquisition de compétences?
J'irai l'avance, voir comment on progresse à chaque fois.
Est-ce que tu penses que, par exemple, à un moment, on peut mettre une meilleure note ou de meilleures pastilles de couleur à quelqu'un qui est moins bon en termes de compétences, mais qui a progressé plus que quelqu'un qui était déjà très bon et qui finalement reste au même niveau?
Bon, alors là, je sais pas du tout.
Tu sais pas?
Non.
Non, mais la question, c'est ça. C'est, est-ce que c'est les progrès qu'on va évaluer ou alors tout simplement la performance?
Je pense que là, dans ce contexte-là, ce serait la...
On parle bien de maîtrise, hein?
Oui, oui.
Ouais.
Bah, je sais pas, moi, la performance.
La performance et la réussite?
Ouais.
Et l'acquisition, la maîtrise, ça veut dire qu'on sait faire de mieux en mieux et que c'est ça qu'on observerait. Ah, donc c'est peut-être ça qui est le plus encourageant. Tu sais que la question que tu soulèves ici est une question qu'on se pose depuis des siècles et des siècles en matière d'éducation, de pédagogie, donc que les enseignants se posent régulièrement, que le ministère se pose régulièrement, savoir quelle est la meilleure façon d'évaluer. D'ailleurs, il y a même une époque, on s'est dit, il faut pas évaluer du tout. Hein, il faut tout simplement que tout le monde évolue tout doucement dans son milieu, acquiert des choses, voire s'auto-évalue. Enfin, des choses assez... On en a vu toutes les formes, quoi. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut pas, tu l'as dit, c'est qu'il faut pas que la note dévalue quelqu'un, quoi.
Oui.
Ah, c'est ça qui est important. On va évoquer justement, on va revenir, on parlait du ministère. Antoine, il y a des accords intéressants qui viennent d'être passés entre le ministère et une organisation.
Oui, alors Luc Châtel et le président de la Croix-Rouge française, Jean-François Mattet, vont signer mardi prochain un accord pour favoriser l'engagement du solidaire des jeunes. Cela a pour but de sensibiliser, d'accompagner et de former les jeunes dans l'engagement solidaire dans différents domaines. La Croix-Rouge est étroitement liée à l'éducation nationale. L'association éducative a pour mission de former les jeunes au premier secours, à les sensibiliser sur les valeurs et les droits humanitaires, afin de les accompagner vers l'engagement bénévole ou volontaire.
Donc un engagement vers la citoyenneté dans cet accord signé entre Mattei et puis Luc Châtel. Mmh. Ça te paraît quelque chose d'important dans l'éducation, ça?
Bah, je trouve ça bien. Ça permet de découvrir... Ça permet de sortir aussi des cours en général.
Concrètement, que ça va se passer comment
Bah, en fait, je pense qu'avant, il y avait plusieurs démarches administratives à faire et c'était pas forcément simple. Donc là, ça va les réduire.
Alors, on va revenir sur une actualité donc prochaine avec Lise.
Oui.
Il y a un mouvement de grève, bah, apparemment, c'est ça, non? C'est de ça que tu veux nous parler?
Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a une grève qui est annoncée pour les enseignants le 15 décembre 2011, donc jeudi prochain. Donc c'est afin de demander le retrait du projet de réforme portant sur l'évaluation et l'avancement des enseignants. Les syndicats appellent à descendre dans la rue le 15 décembre. Donc ce projet de réforme se résume en un nouveau système d'évaluation où les proviseurs et principaux auraient toutes les cartes en main pour faire le travail d'un inspecteur. Ce système permettra à l'État de réaliser des économies tout en faisant stagner les salaires des enseignants plus longtemps. En effet, l'avancement serait le plus lent possible, c'est-à-dire que passer d'un échelon à un autre, il faudra attendre plus longtemps. C'est donc un ralentissement de l'évolution des salaires. Actuellement, il y a une double évaluation. Donc, il y a l'évaluation administrative par le chef d'établissement et pédagogique par les visites des inspecteurs régionaux. Il y a aussi trois vitesses d'avancement qui existent aujourd'hui. À l'ancienneté, la plus lente, et donc ce serait celle adoptée par la réforme. Au choix ou au grand choix, qui sont plus rapides. L'évaluation des enseignants serait donc menée par une seule personne, le chef d'établissement, tous les trois ans.
Alors... C'est très étonnant que tu aies choisi ce type de sujet qui concerne bien le monde de l'éducation, mais un peu moins, on va dire, les jeunes. Est-ce que tu savais, avant de te préoccuper de cette question-là qui a été mise en avant de l'actualité, est-ce que tu t'étais un jour posé la question de savoir si les profs eux-mêmes étaient évalués ou pas?
Mes parents sont profs, donc oui.
Aïe, aïe, aïe. Donc, t'as entendu des conversations de ci, de là?
Oui, puis même, on a souvent des cours où les profs sont inspectés, donc ils nous expliquent avant et après.
C'est-à-dire?
Bah, avant, il y en a certains qui nous préviennent qu'ils vont être inspectés, il y en a qui disent qu'il faut qu'on se tienne tranquille, d'autres pas, d'autres qui disent qu'il faut qu'on soit absolument naturel, donc gentil. Et après, bon, bah, ils nous disent comment ça s'est passé, quoi. C'est tout.
Est-ce que ça te paraît normal que des gens soient évalués dans le cadre d'un métier, quel qu'il soit, par quelqu'un ?
Ah oui, je trouve. Puis surtout l'éducation, enfin tout ce qui est en rapport avec les enfants, parce que, enfin, ça me semble logique. Déjà, les enfants évoluent. Enfin, l'éducation doit évoluer avec. Enfin, je pense. Donc, en plus, il peut y avoir. Nous, on est bien évalués régulièrement. Que ce soit même dans d'autres professions.
Que vous êtes en devenir, en quelque sorte.
Oui, mais les adultes aussi évoluent dans leur métier, je trouve. Que c'est,
et heureusement, oui.
C'est une bonne chose.
Si on était vieux et fini à l'âge de 25 ans, ce serait quand même bien, bien ennuyeux. Tu penses que c'est bien d'être évalué de façon générale, dans tout métier, par son supérieur hiérarchique sur place, plutôt que par des personnes diverses ?
Pas du tout. Pour moi, je trouve ça... en plus, enfin, il n'y aura pas d'œil extérieur qui va pouvoir être objectif. Mmh. Si jamais... Enfin, si on s'entend très bien avec notre chef d'établissement ou même un chef quelconque, ça va, tant mieux. Si on a des différends avec lui, même si il a sûrement une éthique professionnelle qu'il veut respecter, etc., bon, il sera peut-être... Il sera peut-être tenté de ne pas être totalement objectif.
Quelle lucidité dans tes propos. Oui, le vrai danger, c'est évidemment la proximité, le risque de copinage ou le risque au contraire de voir des règlements de compte, en fait, tout simplement. Mais on peut aussi compter sur l'intelligence des gens, hein, c'est-à-dire que voilà, ce serait que des cas isolés, mais malheureusement qui peuvent aussi exister. Hein, on peut penser que la plupart des chefs d'établissement sont censés et feraient cette action de façon raisonnée et efficace. En tout cas, les enseignants, ils n'en veulent pas de ça, si j'ai bien compris, c'est ça ?
En tout cas, les syndicats n'en veulent pas. Les enseignants, on verra jeudi.
Quant à la grève, le 15, tu penses qu'il va y avoir beaucoup de monde en grève le 15 ?
Bah, c'est peut-être pas l'époque... ils auraient peut-être dû la faire il y a un mois, quoi. Enfin, ou il n'y a pas si longtemps, ou peut-être dans quelques semaines, parce que deux jours avant les vacances de Noël, c'est peut-être pas une très bonne idée.
Ouais, je pense qu'en termes d'image, ça va pas être terrible. Moi. Bon, enfin bref, ça c'est qu'un point de vue. Ceci dit, bon, quand il y a des choses qui plaisent pas, il faut oser le dire. Ben d'ailleurs, quand il y a des choses qui plaisent pas, il y en a qui bougent, Stéphanie.
Oui. Donc d'ailleurs, mercredi à la mi-journée, la directrice, deux institutrices et deux agents administratifs de l'école catholique Notre-Dame de Cadereau, dans les Bouches-du-Rhône, ont finalement été libérées. En effet, des parents d'élèves, mécontents des méthodes d'un enseignant, ont décidé de séquestrer donc des instituteurs. Ils lui reprochent des retards dans le programme, ainsi qu'un manque d'autorité. Cette séquestration a finalement permis d'obtenir un remplacement. Mais il faut tout de même savoir que l'enseignant en question était jeune. Donc je pense que c'est un peu abusif parce qu'il n'a pas vraiment d'expérience dans le domaine. Donc.
Ceci dit, si toi tu étais mère de famille et si tu avais ton fils ou ta fille avec cet enseignant et que tu aurais le sentiment que finalement ils perdent leur temps, est-ce que quelque part tu serais aussi compréhensive ?
Peut-être, mais de là en arriver à séquestrer la directrice des instituteurs, je pense que c'est un petit peu gros, quoi. Enfin, il y a d'autres moyens.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre moyen ?
Bah, je sais pas, on peut très bien se plaindre ou à la directrice ou quelque chose comme ça, mais pour faire bouger les choses, mais pas séquestrer certaines personnes.
Est-ce que la meilleure chose, ce serait pas finalement le dialogue avec les personnes concernées directement ?
Bah oui, voilà.
Hein, déjà, aussi. Peut-être commencer par ça. Mm-hmm. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'enjeux derrière l'éducation, des parents qui sont aussi tellement stressés que parfois on peut en arriver à des situations d'incompréhension et des situations de ce type. On a vu aussi des cas hein, de séquestration pour d'autres raisons, dans d'autres, par exemple à la période de la rentrée, mais des séquestrations dans lesquelles il y avait accord entre la direction et les parents, parce qu'il y avait des classes qui étaient supprimées ou il n'y avait pas les moyens. Voilà. Mais là, c'était plus de la mise en scène, la mise en scène qu'autre chose. Donc c'est pas toujours simple hein, le dialogue et la résolution de problèmes. En parlant de problèmes, la jeunesse, est-ce qu'elle a plutôt des problèmes ou pas, Pierre ?
Oui, alors depuis hier, 500 acteurs des régions de France chargés de la jeunesse sont réunis à Arcachon. Leur but est de discuter de la situation des jeunes en France en réaction à un sondage du journal Le Monde du mois dernier qui a mis en évidence des chiffres inquiétants. En effet, selon ce sondage, 80% des personnes interrogées trouvent difficile la situation des jeunes en France. 71% pensent que leur situation a empiré par rapport à leur génération. L'objectif de cette réunion est de favoriser l'émergence de projets pouvant remédier à cette situation en valorisant les régions qui ont obtenu des résultats efficaces pour la jeunesse. Les participants espèrent parvenir à des solutions concrètes en travaillant notamment autour des thèmes de l'emploi, de la formation, du logement, de la citoyenneté, de la santé et de la culture.
Bon, alors ça veut dire que des gens se préoccupent des soucis de la jeunesse. Alors tu viens de citer quelques domaines qui inquiètent un peu plus. On va en discuter peut-être tous ensemble d'ailleurs. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour les jeunes actuellement ? Qu'est-ce qui les préoccupe le plus ?
Je pense que surtout ce qui inquiète le plus les jeunes, c'est leur avenir. On parle souvent de la crise et je pense que l'avenir, enfin surtout l'emploi, est une préoccupation pour les jeunes et que surtout on en prend encore plus conscience justement quand on approche du bac voilà.
Qui veut s'exprimer sur ce point-là, sur les inquiétudes, les angoisses des jeunes?
Moi, personnellement, je trouve que la jeunesse, enfin en tout cas de mon point de vue, est de plus en plus blasée. On n'est pas, contrairement à certaines époques où la jeunesse, par exemple, je pense dans les années 60, la jeunesse avait un message d'espoir. Enfin, elle pensait vraiment que ça allait s'améliorer. Nous, c'est l'inverse. Plus on avance, plus on se dit que ça va être de pire en pire, que dans les années à venir, on n'aura pas vraiment de solution, que plus ça va, plus le taux de chômage, y en a quoi.
Ouais, ça me rappelle une phrase de Daniel Balavoine qui avait dit à François Mitterrand sur un plateau de télévision, la jeunesse, elle est désespérée, et ça, vous ne voulez pas l'entendre, un truc comme ça. Avez-vous l'impression que la jeunesse est désespérée ?
Moi, oui. Enfin, en tout cas, c'est sûr.
Bah, c'est surtout qu'elle est pessimiste, en fait, parce que...
Enfin, ah, désespéré, c'est encore plus lourd que pessimiste. Mais...
oui, mais on aurait les moyens de changer les choses, mais les jeunes se désintéressent totalement du système qui les entoure, et donc ils n'ont pas l'idée de remettre en question leur avenir. Trop.
Le système ou leur avenir ?
Bah, le système, enfin le.
On est né avec en même temps, donc. Ça va pas être facile de tout ce qu'on nous a montré jusqu'à présent. Ça a pas marché, donc.
Dans les cours et tout, justement, ils essaient de nous faire prendre conscience que ça a pas toujours été comme ça et qu'on peut changer les choses.
Vous êtes inquiet sur l'emploi, hein, vous l'avez dit, par rapport à la façon dont vous allez vivre plus tard en famille, par rapport aux revenus, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va être pareil, plus facile ou plus difficile pour vous que pour la génération de vos parents ou de vos grands-parents? Laurine.
Moi, je pense que ça va être un peu plus difficile parce que tout augmente, mais sauf nos salaires. Du coup, ça va être... Moi, je pense que oui, ça va être difficile parce que les revenus vont pas toujours suivre... Les choses dont on aura besoin.
Est-ce que toi, tu as le sentiment que quand tu vas commencer à travailler, dans quel domaine, toi, tu aimerais travailler plus tard ?
Dans le domaine social. Pour être soit assistante sociale ou éducateur spécialisé.
Et est-ce que tu t'es déjà renseigné sur les salaires dans
oui.
ce... Et on démarre à quel salaire ?
Si je ne me trompe pas, c'est 1300.
Et tu t'es déjà renseigné aussi sur l'évolution de...
On peut monter jusqu'à 2100. Mais en fin de carrière.
En fin de carrière, ouais. C'est-à-dire au bout de plus de 30 ans de carrière. Ouais. Quoi. Ouais. Est-ce que ça te paraît un salaire, un revenu qui permet de construire quelque chose? Ou est-ce que l'idée de couple, d'avoir de revenus, par exemple, ça ne change pas aussi les choses? Enfin voilà. Enfin...
Bah, tout au début, avec un salaire de, par exemple, 1300, je pense que ça peut être dur. Surtout si on a une maison, toutes les factures à payer... Après, avec la nourriture, tout ça. Donc, ça peut être délicat avec un revenu faible.
Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est de toute façon, on voit tout qui augmente, mais les salaires, ça bouge
reste,
pas trop.
Ouais.
Ce qu'on peut confirmer, d'ailleurs, hein, les salaires, globalement, actuellement, ne bougent pas, voire même régressent avec, entre autres, la précarisation du travail et les emplois qui ne sont pas forcément toujours à plein temps. En dehors de ça, qu'est-ce qui vous inquiète ? Hier, il y avait un débat, je ne sais plus qui disait, c'était avec François Bayrou, je crois, quelqu'un qui disait, voilà, il y a deux problèmes... Non, c'était pas avec Bayrou, c'était autre chose. On parlait d'urban, on parlait des enjeux écologiques, planétaires, du réchauffement climatique, et quelqu'un disait, mais comment voulez-vous que les gens puissent s'intéresser à ça, sachant que leur préoccupation, c'est, bon, en gros, avec quoi ils vont vivre demain, la question de la dette, etc. Est-ce que vous êtes aussi plus préoccupé, finalement, de cet avenir immédiat ou d'un avenir lointain? C'est une question complexe, là, oui.
Mais c'est pas facile. Un peu des deux, je pense que tout le monde est un peu préoccupé par l'avenir lointain, vu qu'il n'y a pas vraiment de mesures qui sont prises actuellement. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, on est sûrement plus préoccupé par le demain.
Par le concret.
Oui, oui.
Hein, ouais. Donc ça, on le comprend bien. Alors écoutez, on arrive automatiquement au terme de cette émission. On aurait pu aborder d'autres questions, les questions d'alcool, les choses comme ça. On en parle beaucoup en ce moment avec les jeunes. Mais on va en rester là. On va en rester là en rappelant que c'était Justine, Audrey, Laurine, Antoine, Lise, Stéphanie, Pierre qui étaient dans cet hebdo des lycéens présenté en direct sur Fréquence Cillée sur le 97.9. Au revoir.
Au revoir.